jusqu'à 9h, format A3.
Nous parlons de la peur ce matin dans Format A3 avec notre invitée Isabelle Erard, réflexologue.
Alors la peur, c'est vrai qu'elle a plusieurs visages, hein, il y a plusieurs manières de la contenir, mais les peurs sont incroyablement variées. Les serpents, il y en a qui ont la peur des clowns, peur du vide, peur des examens, alors ça c'est clair, il en existe encore tellement d'autres. Elles se manifestent toujours de manière différente, Isabelle Erard.
Alors moi je rectifierai un petit peu l'énoncé, hein, je pinaille toujours, mais c'est
dans
mon métier.
Mais vous avez raison.
On ne contient pas une peur, c'est absolument impossible. Si on essaye au moins de ne pas l'exprimer, on la refoule. Ce qui est pire, c'est-à-dire qu'on la renvoie à l'intérieur. Et puis d'autre part, ce sont les objets de la peur qui changent et non pas la peur elle-même. Physiologiquement, la peur fonctionne toujours de la même manière.
C'est toujours le même circuit.
Voilà. Donc on a des degrés variables de puissance, mais pas de nature. Hein? Donc après, selon l'histoire de la personne, on va focaliser sur une chose ou une autre en fonction des événements de sa vie. Voilà.
Mais par exemple, on ne peut pas comparer une peur qui, typiquement si quelqu'un arrive derrière nous et nous fait peur, à une peur constante comme la peur par exemple des araignées. Et puis, est-ce qu'on peut confondre la peur et l'angoisse ?
Voilà. Alors là, il y a plusieurs questions dans votre question. D'une part, il y a la peur qui est la peur des dangers réels. C'est clair que si je suis face à un tigre qui n'a pas mangé depuis une semaine, je vais avoir une peur véritable, mais elle est réelle. Je suis réellement en danger. Hein? Par contre, il peut y avoir des peurs supposées. C'est que je me dis, ah si, au coin du métro, je vais rencontrer un tigre. Je fabrique ma peur. Hein? C'est-à-dire que je pars sur une peur connue et je la transplante dans l'imaginaire. Mais au niveau du cerveau, l'amygdale, elle est intelligente quelque part, mais en fait, elle ne fait pas la différence entre une véritable peur liée à un danger réel et à un danger qui est supposé tel. Quant à la phobie, c'est une construction en fait de deux choses qui se sont produites en même temps, une peur réelle et en même temps la vision d'un objet. Le corps a oublié dans l'inconscient le sujet de la peur réelle, mais se souvient par contre de l'objet qui était présent au moment de la peur. Et c'est comme ça qu'on construit sur les vers à dents, sur des trucs complètement hallucinants, le petit colibri du voisin, enfin des choses complètement ahurissantes, ou mon poisson rouge dans mon salon de massage. Par exemple, j'ai dû aller travailler ailleurs avec quelqu'un.
Ah d'accord.
Voilà. Donc c'est simplement que la personne, en voyant un poisson rouge, il y a eu un événement qui l'a effrayé dans son tout tendre âge, et elle en a déduit que parce qu'il y avait un poisson rouge, il y avait un danger.
Un danger, voilà.
Et puis c'est resté collé dans le cerveau.
Donc ça veut dire que la peur nous aide à vivre au quotidien, à affronter les dangers réels, et la phobie nous bloque dans notre vie quotidienne.
Tout
c'est
à
la
fait.
Phobie qu'il faut combattre, soigner.
Il faut la démonter en fait. Il faut retrouver en fait l'événement qui est à l'origine de ce collage de deux événements qui n'avaient rien à voir ensemble. Alors, en ce qui concerne l'angoisse maintenant, hein, l'angoisse, c'est la répétition de peur consciente et ou pas, et refoulée surtout. C'est-à-dire qu'on a eu peur, puis à chaque fois on se dit c'est pas grave, on passe ça sous le tapis, et pour finir, à un moment donné, ça fait ce qu'on appelle un stress physiologique chronique. C'est-à-dire que, si vous voulez, les hormones s'accumulent dans le corps, et normalement, lorsque l'on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? On doit soit fuir, soit combattre, quand il y a un véritable danger. Hein ? Ça mobilise le corps, on a du sucre qui arrive dans le sang pour pouvoir courir, se défendre, des hormones qui nous permettent de stimuler les muscles, etc., tout ce dont on a besoin, et le tout est brûlé dans les 20 minutes. D'ailleurs, si on a très très peur et qu'on court, après on est complètement lessivé. Si par contre on est dans un bureau et puis qu'on ne peut pas bouger, à ce moment-là, toutes ces hormones et ce sucre qui se déversent dans le sang ne sont pas utilisées, et à terme, avec le stress physiologique chronique, on atterrit au diabète. Donc le diabète actuellement n'est pas lié à une alimentation délirante. On a beaucoup de diabètes qui sont consécutifs à des stress post-traumatiques physiologiques. C'est intéressant de le savoir, parce qu'on ne va pas chercher la cause du diabète dans la psychologie, en fait.
La peur, et ce sera l'une des dernières questions, elle est tout de même, malgré tout ce que l'on a dit, elle est importante pour notre évolution, pour vivre au quotidien. C'est l'une des émotions les plus anciennes, mais c'est aussi l'une des plus importantes.
Je dirais oui et non. dans notre civilisation actuelle, on est quand même en sécurité. Hein, on n'est plus un pauvre petit chou qui fait 80 cm et qui risque d'être bouffé à tous les coins de rue. Il y a des endroits, effectivement, dans certains pays où la peur est là, véritablement la survie. Donc, elle est primordiale. On n'a plus le luxe d'avoir des émotions autres que la peur. Par contre, chez nous, la peur devient un handicap, c'est-à-dire que comme on n'a plus de raison véritable d'avoir peur, on commence à avoir peur de ce qu'on pourrait imaginer qu'il arrive. Et c'est là que ça part en torche.
On finit d'avoir peur pour rien.
Voilà, on a peur d'avoir peur.